Bonsoir, merci d'être venus nombreux à cette rencontre sur les Amériques noires. Nous accueillons ici Pape Ndiaye, qui est depuis cette rentrée professeur à Sciences Po. Nous l'avions laissé avec, et il nous avait laissé avec la condition noire. En voici une édition de poche. Il nous revient avec une histoire de Chicago qui vient de sortir il y a peu de temps, 2 semaines environ, dont il est co-auteur avec Andrew Diamond chez Fayard. Et nous accueillons Jean-François Niort qui revient d'un colloque à Grenoble. Il a passé 2 jours à Grenoble. Il sait qu'ici nous ne sommes pas en colloque, donc nous aurons une parole grand public pour des connaisseurs, mais une parole grand public, et qui vient de publier, enfin c'était en 2012, mais ça reste d'actualité, Le Code Noir, une analyse et une mise en contexte. On pourrait dire que c'est Le Code Noir après Le Code Noir, et ça va être un point commun, parce que comment, malgré cet intitulé extrêmement simple, Amérique Noire au pluriel, comment établir un lien entre les deux auteurs, qui ne soit pas un lien artificiel, entre un historien des minorités et un historien du droit. Alors le point que nous avons trouvé, c'est en particulier de présenter quelques aspects de l'esclavage, bien sûr, des textes qui l'ont régi, mais aussi des conséquences aujourd'hui et des retombées, des implications sur le monde moderne et des formes, disons, d'esclavage ou des formes qui pourraient avoir un lien direct avec l'esclavage. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être avoir que chacun des deux s'exprime rapidement, enfin, d'une manière synthétique pour que le public qui ne vous aurait pas lu. Qui a lu La Condition Noire ? Bon, pas tant que ça, mais bon, donc. Et qui a lu Le Code Noir par Jean-François Niort ? Oui, quand même, il a ses supporters, ou son supporter en tout cas. Peut-être que chacun d'entre vous vienne à la genèse de son livre, et puis même aussi à la genèse de l'histoire de Chicago, ça sera une information utile pour chacun. Jean-François Niort, pourquoi vous êtes intéressé au Code Noir ? Et de quelle manière vous êtes intéressé ? Parce qu'on voit qu'il y avait le fameux, ou la fameuse lecture, la célèbre lecture du Code Noir par Louis Salamelas, déjà, qui nous avait bien renseigné sur la question. La genèse de ce Code Noir, donc c'est dans la collection tirée à part de Dalloz.
Oui, je m'étais d'abord intéressé au Code civil, au Code Napoléon, dans le cadre d'une thèse, d'histoire et de sciences politiques, pour un peu interroger le symbole de ce monument national. Et puis après ça, je tombe sur un autre symbole, un autre monument, un autre code, le Code Noir, et effectivement sur lequel déjà il y avait l'ouvrage de Louis qui a eu l'immense mérite de remettre ce thème en lumière, mais qui n'a pas tout dit, voilà, surtout aux yeux de l'historien du droit que j'étais. Bon, par exemple, il ne s'est pas rendu compte que l'original du Code Noir n'existe toujours pas, enfin on ne l'a toujours pas retrouvé aux archives. Il ne s'est pas rendu compte que les versions anciennes du Code Noir qu'on a cherché du coup nous dans les archives divergent, qu'il y a de grosses différences en fait d'une version à l'autre, et qu'en l'absence d'original, ça reste encore un objet pour les historiens du droit, un objet encore fuyant, flou, incertain. Alors pourquoi il n'y a pas l'original ? Pourquoi a-t-il disparu des archives ? C'est une question parmi d'autres. Donc on a fait un travail, le travail que fait souvent l'historien du droit, il essaye de mettre un peu de certitude là où il y a beaucoup d'incertitudes au départ. Et donc, j'ai pris la version la plus ancienne disponible à ce jour, qui est la version Guadeloupe, qui en plus n'avait jamais été publiée, qui était à l'état de manuscrit dans les archives d'outre-mer françaises, qui avait été enregistrée à la main en décembre 1685 par le secrétaire du Conseil supérieur de Basse-Terre à l'époque, qui n'avait jamais été publiée. Donc je me suis dit, prenons-la comme version de référence, ça la fera connaître d'une part, d'autre part c'est la version la plus ancienne connue à ce jour, donc prenons-la comme version de référence, et comparons-la à toutes les autres versions, Moreau de Saint-Méry, etc., qui étaient déjà connues dans les archives. Et on s'apercevait que d'une version à l'autre, il y avait parfois des différences très importantes qui changeaient la portée juridique, qui changeaient le sens juridique de certains articles. Voilà. Et puis après, effectivement, il y avait la deuxième point, c'est le code noir après le code noir. Effectivement, ce que j'ai reproché à Louis, on est amis, hein, depuis, on a sympathisé, on échange souvent des mails.
C'est pas une dispute intellectuelle.
Voilà, c'est exactement ce qu'il a dit d'ailleurs, disputationner des colibettes. C'est dans les universités avant, c'était ce qu'on faisait quand on n'était pas d'accord. On échangeait des arguments, non pas des pierres. Mais effectivement, moi, je lui disais, l'historien, il doit restituer les choses dans leur évolution. C'est ce qu'on appelle en termes techniques la diachronie. Et moi, ce que je voulais montrer, notamment dans cet ouvrage, c'est qu'il y a eu pire que le code noir. Alors, si on réserve les qualificatifs les plus terribles de la langue française pour qualifier le code noir de 1785, qu'est-ce qui reste pour qualifier ce qui a été pire encore ? D'autant que ce pire s'est produit en plein siècle des Lumières. Et là, je rejoins Louis, effectivement, sous les Lumières, l'autre âge, son autre livre. Effectivement, en plein siècle des Lumières, à la demande des colons, sous la pression des colons, va apparaître et se cristalliser, se figer ce fameux statut des libres de couleur qui, lui, est totalement et à 100% basé sur un critère donc de couleur, de race. Et là, on voit la France en plein siècle des Lumières, au moment même où les philosophes des Lumières sont en train de théoriser la liberté et l'égalité de tous les hommes, non seulement naturelle, mais en droit aussi, et la réclamer en 1762, Rousseau, dans le contrat social. Et puis 30 ans plus tard, ça sera consacré dans l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Au même moment, on voit la France coloniale mettre sur pied un statut de ségrégation et de discrimination purement raciale qui ne peut pas ne pas avoir inspiré par la suite, parce qu'il va être rétabli en 1802, au moment du rétablissement de l'esclavage, vous le savez, par Bonaparte. On va également rétablir ce statut discriminatoire ségrégatif contre les élites de couleur. Ne peut pas ne pas avoir inspiré le sud des États-Unis, l'Afrique du Sud par la suite. Et donc la France, encore une fois, dans ses contradictions qu'on connaît bien, d'un côté, soi-disant patrie des droits de l'homme, et puis de l'autre côté, en même temps, dans ces territoires ultra-périphériques, comme on dit maintenant les RUP, en langage de droit européen, en train de mettre sur pied des statuts, des conditions et des régimes juridiques qui sont comparables à ceux qu'on va retrouver dans les territoires que je viens de citer, voilà, qu'on met toujours en avant, mais on oublie que la France a été précurseur. Elle n'a pas été que précurseur dans le bon sens de l'affirmation des droits de l'homme, elle a été tout autant précurseur, en même temps, simultanément, concomitamment, dans la mise en place de statuts qui en sont la négation totale de ces droits de l'homme-là.
Oui, donc vous parlez d'ailleurs de ségrégation raciale. Je voudrais lire peut-être un extrait, parce que là, effectivement, c'est une belle synthèse que vous faites et vous nous projetez dans l'aujourd'hui. Hein. Page 25. On observe ainsi, à partir du XVIIIe siècle, une racialisation du droit servile, bien plus nette qu'en 1685, ainsi que le reflète la terminologie juridique. Et n'est dès lors pas étonnant de voir apparaître en 1718 l'appellation « code noir » dans la première édition privée du CN, le code noir, version 1685, la plus ancienne connue du moins, celle de la veuve Saugrin, signe de la confusion opérée dorénavant entre la couleur et l'État. Plus encore qu'une simple politique de ségrégation raciale, il s'agira de discrimination, comme l'avait déjà bien vu Yvon Debache, après Auguste Lebeau, la couleur noire devait rester synonyme de servitude même après l'affranchissement. Ainsi que le rappelle une lettre du ministre aux administrateurs de Saint-Domingue en 1771, il convenait en effet de maintenir le principe qui doit écarter à jamais les gens de couleur et leur postérité de tous les avantages attachés aux blancs, parce qu'il importe au bon ordre de ne pas affaiblir l'état d'humiliation attaché à l'espèce, entre crochets noirs, dans quelque degré qu'elle se trouve, préjugé d'autant plus utile qu'il est dans le cœur même des esclaves et qu'il contribue principalement au repos des colonies. Tout est dit. Papendiaï. Peut-être une réaction déjà à cette présentation.
Oui, enfin, évidemment que c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Moi, je suis historien des États-Unis surtout, et donc je ne peux m'empêcher d'établir des comparaisons entre les situations nationales, l'existence dans le cadre des colonies américaines de la fin du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle, de codes noirs qui sont édictés à peu près à la même époque, et qui, au fond, essaye de codifier juridiquement la situation des esclaves. Alors, c'est sans doute la même chose dans le cadre de la Caraïbe française, mais dans le cadre de l'Amérique coloniale, à la fin du XVIIe siècle, les propriétaires d'esclaves et les juridictions politiques des différentes colonies font face à toutes sortes de complications juridiques. Est-ce que, par exemple, un esclave qui se convertit au christianisme peut rester esclave? Voilà. Des questions qui se posent aussi sur la descendance des esclaves. Enfin, toutes sortes de choses qui nécessitent à un moment donné une sorte de codification juridique pour régler ces situations de controverses et de disputes politiques et juridiques. Et on voit donc comment l'esclavage se codifie. Cela posé, bien entendu, les historiens qui ne sont pas les historiens du droit, mais les historiens qui pratiquent de l'histoire sociale de l'esclavage, établissent une distinction entre le code noir et ce qui se passe dans l'histoire de l'esclavage. Autrement dit, la vie des esclaves, les relations que les esclaves entretiennent avec leur maître, avec leur régisseur, etc., ne se trouvent pas entièrement dans les textes juridiques, pas plus que la vie de la France en 2013, de la société française, ne peut se lire entièrement dans la constitution de la Ve République ou dans les textes juridiques et constitutionnels qui ont été votés par la suite. Ce qui m'occupe, quant à moi, alors, de façon plus précise en tant que chercheur, c'est non pas la période de l'esclavage, mais plutôt la période post-esclavagiste dans les mondes américains et singulièrement les États-Unis, pour essayer de réfléchir au système de domination qu'on va appeler colonial et racial, qui se sont mis en place lors même que l'esclavage était supprimé en 1865, donc dans le cadre des États-Unis, en 1848 en France, en 1888 au Brésil, pour ne citer que ces trois exemples-là. Or, comme vous savez, la fin de l'esclavage ne marque pas en pratique l'égalité des droits entre les personnes, esclaves, plutôt anciens esclaves affranchis, et puis population qui était libre avant les lois d'affranchissement. Et donc, il faut bien se pencher sur le legs, ce qu'on pourrait aussi appeler les héritages de l'esclavage, qui, en dépit du temps qui s'écoule, persiste jusque dans les sociétés contemporaines. Et en deux mots, il me semble qu'il y a deux écueils à éviter, si vous voulez, du point de vue de la recherche en sciences sociales et en histoire. Le premier écueil consisterait à expliquer que les situations contemporaines de domination sont des situations marquées par des situations d'esclavage, comme si aujourd'hui on était encore dans l'esclavage, on n'est plus dans l'esclavage aujourd'hui, même s'il subsiste, par exemple dans les Amériques noires, des situations qui sont très proches de l'esclavage. Par exemple, du côté de Saint-Domingue, il y a des situations de population haïtienne qui sont forcées de travailler pour des salaires absents ou alors minuscules. On se rapproche là de situations qui étaient les situations de l'esclavage de jadis.
Avec confiscation des papiers.
Des confiscations des papiers. Donc on a des personnes qui sont assujetties, qui ne peuvent plus quitter les endroits où elles travaillent. Et ce sont des situations d'ailleurs qui sont présentes de par le monde. On parle d'esclavage moderne aujourd'hui. Il importe de ce point de vue-là de distinguer ces situations de domination, d'exploitation inacceptables avec l'esclavage de jadis, tel que celui dont on parle, ne serait-ce que parce que d'un point de vue juridique, si au moins il y avait une différence, hein, c'est que les situations d'aujourd'hui ne sont pas transmissibles aux enfants et ne sont pas codifiées juridiquement comme elles pouvaient l'être jadis. Ce n'est pas une manière pour moi de dire qu'il ne faut pas parler d'esclavage moderne. Ce sont des termes qui ont leur force, qui mobilisent politiquement, etc. Il faut, bien entendu, les utiliser, mais il faut être aussi attentif au fait que, quand on parle d'esclavage moderne aujourd'hui, ça n'est pas tout à fait la même chose que la forme historique de l'esclavage dont on parle. Donc la première erreur, ce serait de dire « population noire, elles sont encore esclavagisées aujourd'hui, etc. » Il faut évidemment faire litière de cela, parce que sinon l'histoire disparaît, c'est plus qu'une sorte de bloc, n'est-ce pas, où on ne comprend plus les évolutions. Et puis la deuxième erreur, le deuxième écueil, qui est l'écueil inverse en quelque sorte, consisterait à dire eh bien, depuis les abolitions, etc., tout le monde est égal, il n'y a plus de domination, on vit dans des sociétés aveugles à la couleur de peau, noir, blanc, tout ça, ça n'a plus aucune importance. L'esclavage, c'était il y a très longtemps, chacun a sa chance dans des sociétés démocratiques. Il y a l'école, il y a les parcours républicains, etc. Et donc, il y a une rupture par rapport au passé. Or, là encore, il y a évidemment de quoi remettre en question ce point de vue trop optimiste ou trop rose, puisque précisément, lorsqu'on se penche sur les sociétés où l'esclavage a existé, force est de constater que, d'une manière générale, les structures sociales, le feuilleté social, comme on dit, eh bien, a quelque chose à voir avec l'esclavage, au sens où, même s'il y a des trajectoires exceptionnelles, même s'il y a des classes intermédiaires qui sont beaucoup plus épaisses qu'il y a deux siècles, eh bien, qu'une bonne partie des descendants d'esclaves se trouvent tout en bas de la société, et que les gens qui sont plutôt dans les strates supérieures sont issus des familles qui sont les familles propriétaires de terres et également anciennement propriétaires d'esclaves. Dans le cas des États-Unis, où les études statistiques ont été les plus fines sur le sujet, eh bien, on a, dans ce qui concerne le monde noir américain, fait des sociologies du monde noir pour montrer que les élites américaines, noires américaines d'aujourd'hui, sont ont des ancêtres qui sont de manière surreprésentée des anciens libres de couleur, hein, qui sont issus de gens qui n'étaient pas esclaves pendant l'esclavage. Alors, et que plus on descend dans la hiérarchie sociale, dans le feuilleté social, eh bien plus on trouve des gens dont le pourcentage d'esclaves est élevé. Hein. Alors, on peut pas attribuer ça au hasard, n'est-ce pas, ou à une sorte de... Il y a des permanences, il y a des héritages qui sont des héritages lourds, et quand on s'intéresse à ces régions-là, quand on est historien, sociologue, anthropologue, etc., étudier ces transmissions, étudier ces héritages, étudier que le fait qu'avoir des ancêtres esclaves ou ne pas avoir des ancêtres esclaves dans les sociétés américaines, ça fait une différence, ça c'est un des grands enjeux, me semble-t-il, lorsqu'on s'intéresse aux inégalités contemporaines et même lorsqu'on s'intéresse à la manière de les combler ou en tout cas de les gommer parce que ces inégalités-là sont des inégalités d'une grande violence et d'une grande force dans les sociétés caribéennes et dans les sociétés post-esclavagistes en général.
Oui, de les combattre. Hein. C'est cette idée qui traversait d'ailleurs la condition noire, la question de la mesure aussi, de la question des statistiques ethniques.
Voilà, la question de la mesure. Comment on peut prouver de façon à peu près solide, ou en tout cas le démontrer, le poser comme une proposition scientifique, que en France, par exemple, à l'instar des États-Unis, eh bien, être noir ou être considéré comme tel, hein, je ne pose pas ça comme une essence, mais comme une apparence, n'est-ce pas, pose des difficultés que l'on peut essayer de quantifier dans l'accès au monde du travail, en particulier dans l'accès au logement et dans les relations avec un certain nombre d'institutions publiques et privées, et que dès lors, qu'il est possible dès lors de poser l'apparence noire comme objectivement un handicap social. comme d'autres groupes, hein, bien entendu, et ça peut se mêler à d'autres choses, le fait d'être une femme ou un homme, la classe sociale est un effet déterminant, etc. Mais toutes choses étant égales par ailleurs, on peut penser, en effet, raisonnablement, c'est en tout cas ce que j'essaie de démontrer le plus calmement possible, que être noir est objectivement un handicap social. Et je ne sache pas, et je ne connais pas de société dans le monde où cette proposition ne soit pas vraie, particulièrement les sociétés où des formes d'exploitation coloniale et où l'esclavage ont existé pendant des laps de temps importants.
J'aimerais vous poser à tous les deux une question d'actualité qui a traversé et la campagne électorale de François Hollande, enfin traversée, c'est un grand mot en tout cas qui a été évoqué, et pour l'année 2013 qui est devenue une proposition de loi qui rejoint les deux aspects, la question c'était la question du mot race dans la Constitution, puis la question du mot race dans les textes de loi. Vous étiez exprimé, Pape Ndiaye, il y avait une interview dans Le Monde notamment où vous, à ce propos-là, qui séparait, disons, les partisans de supprimons le mot race des textes de loi, et puis d'autres qui disaient mais non, ça n'est pas en supprimant le mot race qu'on va supprimer le racisme. Et vous disiez notamment l'esclavage a disparu, la hiérarchie sociale et raciale s'est maintenue. Jean-François Niort, sur cette question, peut-être parce que c'est une question qui réunit à la fois un aspect juridique, puisqu'il s'agit, au départ, c'était la Constitution quand même, c'est pas rien, et puis l'histoire des mentalités, et puis l'histoire des minorités, des discriminations. Votre opinion, je ne sais pas si vous avez réfléchi précisément, puisque vous vous intéressez plus au code noir, mais peut-être vous avez une opinion sur cette question, supprimer ou pas le mot race de la Constitution et des textes législatifs.
Disons qu'au regard, par exemple, du passé républicain relativement pas si lointain que ça sous la Troisième République, où le mot race était surutilisé officiellement par les mêmes qui nous mettaient en place simultanément l'école laïque gratuite et obligatoire, en l'occurrence Jules Ferry, qui n'hésitait pas à parler non seulement de race, mais de race supérieure et des races inférieures et du devoir, non seulement du droit, mais du devoir qu'avaient les races supérieures d'aller donc coloniser les races inférieures pour les civiliser, je pense que ça serait peut-être effectivement un acte de justice, comme on disait en 1794 et en 1848 au moment de l'abolition de l'esclavage, que de peut-être nettoyer un petit peu les textes juridiques de cette référence. Pourquoi pas pour éviter aussi qu'à l'avenir, on s'en resserve, ce qui est toujours un danger permanent, une démocratie ne sait jamais gagner. Les retours des forces obscures sont toujours possibles, malheureusement, surtout en temps de crise. Et donc, on en parlait au colloque de Grenoble, d'ailleurs, il y a quelques jours. Il y avait une communication, justement, sur le langage politique sous la Troisième République qui était excessivement claire et inquiétante à ce sujet. Et je ne sais pas si François Hollande a choisi la meilleure référence à la personne de Clémenceau. J'aurais préféré entendre parler de Jaurès. En particulier parce que Clémenceau lui-même n'a pas été totalement exempt de ce genre de référence à la race, bien que radicale, bien qu'à la gauche de la gauche républicaine, pas l'extrême gauche comme on dit, mais à la gauche de la gauche républicaine, l'extrême gauche c'était quand même les socialistes, c'était quand même Jaurès, Jules Guesde. Et donc effectivement, ça ne me dérange pas du tout en tant qu'historien de voir disparaître ce mot de la terminologie juridique française. Après, la disparition dans les mentalités, c'est autre chose, comme vous le dites. Et c'est un autre combat, autrement plus compliqué. Alors, j'en profite pour rebondir juste sur un détail. Souvent, je ne sais pas si c'est le cas de Pape, mais souvent, sous prétexte qu'on se présente comme historien du droit, les historiens des lettres, par exemple, politistes et tout, ont parfois tendance à croire qu'on se limite un peu naïvement au droit.
C'est pas mon
peut-être un préjugé. Alors qu'un historien du droit, bon, quand il travaille sur un texte législatif, qui était le Code noir, évidemment, on travaille là-dessus, mais on n'oublie jamais le contexte, évidemment, on est quand même aussi historien, on n'est pas que juriste. Et sans même parler du contexte, où là, souvent, on s'appuie d'ailleurs sur les travaux des historiens des mentalités, des historiens de l'économie, des historiens de la société, le droit, c'est aussi la jurisprudence. Et c'est aussi les actes notariés, la pratique notariale. Et lorsqu'on rajoute l'étude de ces deux sphères juridiques-là, beaucoup plus proches de la réalité, à celle du cadre légal officiel, là on a quand même une vision beaucoup plus complète. Et bon, dans d'autres travaux, je montre à quel point ce code noir était violé dans la pratique, bien sûr. Et puis ça a déjà été largement démontré par d'autres historiens du droit. Donc l'historien du droit, il n'est pas fétichiste du texte, il ne prend pas le texte pour la réalité, au contraire, mais il s'en sert comme un instrument de mesure.
Oui.
Du décalage existant entre le discours officiel et la réalité, notamment juridique. La réalité notariale, ce n'est pas que la réalité juridique. Les notaires ne font que consigner les pratiques sociales, en réalité, notamment des classes dominantes.
Oui, et un instrument de mesure des mentalités, de leur évolution.
De mesure de mentalité aussi.
Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Sur le mot race, alors, oui. mon point de vue, et on est en sympathie sur le fond, mon point de vue est un peu différent, au sens où moi, je suis partisan de conserver le mot race dans la Constitution française, de même d'ailleurs que le mot existe dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Faudrait-il aussi purger la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qui poserait d'autres problèmes, parce que la France ne serait pas seule là-dedans. Donc, on se retrouverait d'ailleurs en tension entre la Constitution et puis la Déclaration universelle des droits de l'homme si le mot race était supprimé de la Constitution. Donc je disais que j'étais... que je n'y étais pas favorable, puisque le mot race est présent dans une phrase, qui est une phrase qui interdit de discriminer ou de traiter les personnes de manière inégale selon le principe de la race. Autrement dit, supprimer le mot race de la Constitution, ce serait supprimer la seule disposition antiraciste de la Constitution. C'est quand même extrêmement problématique. Extrêmement problématique. Le mot race n'est pas présent parce qu'il signifierait un engagement ontologique du législateur sur l'existence de la race. C'est pas du tout ça. Le législateur n'intervient pas là-dessus. Le législateur signale à toutes fins utiles qu'il est interdit de traiter différemment selon un critère de sexe, un critère, il y a d'autres critères, et un critère de race, sans nullement considérer que les races existent de façon comme des ensembles biologiques dans la réalité sociale. Et donc, mon point de vue, c'est de maintenir ce mot, parce qu'il faut bien que dans la Constitution française, il y ait une disposition antiraciste. Je veux bien que ce mot renvoie à une avant-guerre qui est lourdement lestée dans les sciences sociales et dans le vocabulaire politique, comme le disait Jean-François, par la race, par les hiérarchies raciales, etc. Mais ça n'est pas la première fois que, d'un point de vue juridique, ce qui, au départ, sert pour asservir et pour justifier la domination, est ensuite inversé et sert de point d'appui pour lutter précisément contre ce qui, auparavant, était justifié par le même mot. De même que, pour prendre un exemple parallèle en ce qui concerne les États-Unis, la statistique ethno-raciale qui existe depuis le premier recensement américain de 1790 a longtemps eu pour objet un objet qui avait des fins de domination, ne serait-ce qu'il fallait compter les esclaves, parce que le nombre d'esclaves dans les États américains avant la guerre de sécession comptait dans leur représentation politique, dans leur poids politique au Congrès. Les États du Sud voulaient ça parce que ça leur donnait plus de poids politique à Washington. Et puis aujourd'hui, la statistique ethno-raciale n'a plus du tout pour objectif celui de maintenir la domination, mais au contraire de mettre en lumière des disparités socio-économiques, en particulier entre les groupes, qui commandent bien qu'il faille minimalement les mesurer pour pouvoir ensuite regarder les différences de taux de chômage, de revenus, etc. etc. Et donc la même disposition politique et juridique dans le cadre du recensement peut avoir des fins entièrement différentes malgré une apparence de similitude, n'est-ce pas, dans l'histoire. Donc, de mon point de vue, c'est de maintenir ce terme-là, ce qui pose la question de la lutte contre le racisme, et puis de surcroît, l'argument supplémentaire, comme vous le rappeliez, c'est que la purification lexicale, moi je veux bien m'y engager, mais je ne suis pas sûr de ses effets pratiques immédiats. Je pense qu'on aime souvent, en France et ailleurs d'ailleurs, se faire plaisir en se lançant dans des grandes croisades de ce genre. sans s'occuper exactement des effets pratiques que cela peut avoir. Je préfère, quant à moi, une lutte consistante contre le racisme et contre les discriminations, une lutte qui peut tout à fait s'accommoder de la disposition présente dans la Constitution française.
Jean-François, je voudrais ajouter, moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pape. Simplement, il y a deux autres détails qui me gênent. Premièrement, le mot race ne correspond plus du tout à une réalité scientifique aujourd'hui. Tous les scientifiques sérieux, sauf quelques, notamment un prix Nobel, mais je pense qu'il vit sur une autre planète. Je ne citerai même pas son nom, il ne mérite pas, à mon avis, britannique, continue à y croire. Donc, c'est gênant de voir le droit renvoyé à quelque chose dont on sait aujourd'hui scientifiquement que ça ne correspond plus à une réalité. Alors peut-être qu'on pourrait prendre un autre mot, l'apparence, la couleur, je ne sais pas. Quelque chose de plus visible, justement, par rapport à cette notion de minorité visible. Je ne sais pas. Et deuxième petit détail qui est gênant, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite. De toute façon, il y a rarement des solutions parfaites. Toute solution entraîne souvent de nouveaux effets pervers ou pas, enfin des effets émergents, comme dirait Raymond Boudon, qui peuvent naître de choix et de décisions prises par les acteurs. Mais l'aspect aussi, alors là, c'est le sociologue du droit qui parle, c'est que parfois la norme aussi, elle crée aussi la déviance. C'est-à-dire que c'est vis-à-vis de groupes sociaux qui sont déjà en défiance vis-à-vis de cette norme générale, disons des groupes extrémistes, pour le dire clairement, racistes, la présence de ce terme dans le discours juridique officiel peut avoir un effet de renforcement du discours juridique extrémiste. Vous voyez, le fait que ça existe, alors c'est ah ben oui, voilà, ça c'est bien la loi qu'ils veulent nous imposer. Alors il y a des sociologues du droit qui ont travaillé notamment sur cette question en sociologie du droit pénal, entre autres. C'est-à-dire la présence d'un mot avec toute la charge symbolique qu'elle a peut continuer à vivifier la contestation de ce à quoi ce mot renvoie. Effectivement, Pape avait raison, ce mot maintenant est utilisé dans le sens inverse, évidemment, que sous la Troisième République, c'est pour le combattre, le racisme. Mais quand on vit dans une société, malheureusement, comme en ce moment, on assiste à des poussées, des pulsions, un peu de tendance un peu xénophobe, voire autour du racisme, ça peut paradoxalement jeter un peu d'huile sur le feu. C'est-à-dire, c'est un peu comme ce que les sociologues du droit pénal disent, l'effet un peu, pas polémogène, mais un fractogène de la règle. Oui, c'est un néologisme. Hein. L'existence de la règle, bon, Jean Carbonnier par exemple,
oui.
L'existence même de la règle, surtout si elle véhicule une valeur morale, en l'occurrence c'est le cas, peut susciter la déviance et l'infraction.
On va revenir sur votre travail précisément et l'évolution du code noir et des codes noirs, enfin bon, de ce chapitre qui est intitulé « Le code noir après le code noir », avec l'aggravation des situations, du droit, des textes. J'aimerais vous entendre sur la réalité. Est-ce que ces aggravations de texte, ces aggravations du droit se sont accompagnées dans la réalité? Est-ce que ça a été du texte à la réalité quelque chose qui a été aussi en aggravation, alors que bon, on avait 1848, l'abolition de l'esclavage?
Vous voulez dire après 1848?
Oui.
Ben, je rejoins tout à fait le pape quand il dit qu'effectivement, après il faut regarder les choses en termes de perpétuation de mécanismes, de structures, de pratiques, de mentalités qui conduisent toutes au maintien de la domination sociale sur le groupe précédemment esclavagisé, qui change de statut juridique, mais qui reste toujours en bas de la société, qui reste toujours dominé, exploité. On parlait tout à l'heure, avant de venir devant le public, de l'absence de réforme agraire. Il n'y a pas eu de réforme agraire, enfin il y a eu une velléité avec Lincoln et puis surtout le député, le représentant au Congrès qu'on voit dans le film d'ailleurs.
Oui, le républicain radical.
Voilà, qui a essayé effectivement, je crois que ça a même été voté et puis c'est finalement le successeur de Lincoln qui a, qui a tout fait pour que ça ne... C'est la politique des, de la
mule. 40 acres
et mule.
C'est-à-dire bon, la promesse, 40 acres, ça fait 18 hectares, de fournir à chaque famille esclave 18 hectares et une mule pour labourer. Hein, et ça, c'est tombé à la rivière très vite.
De son successeur,
Jackson.
Dès le départ, qui a tout fait pour. Qui venait du Sud en plus.
Oui.
Il faut. Schœlcher lui-même avait envisagé
oui,
la possibilité de dédommagement également pour les esclaves.
Tout à fait.
Pour lui-même. Et puis ça a été évidemment bloqué pour des raisons politiques, pour le lobby colonial qui à l'époque était encore extrêmement puissant. Et du coup, ça nous amène à la question des réparations. Mm-hmm. Moi, je pense qu'il faut aborder ça. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir ce que Pape en pense. La question des réparations.
Ah, moi, je peux vous le dire, si je lis l'interview.
Juste un mot sur, pour rebondir sur ce que dit Jean-François, la question de la réforme agraire, c'est une question décisive, c'est-à-dire que nulle part, à ma connaissance, l'abolition de l'esclavage n'a été suivie de formes de réparation par lesquelles les affranchis auraient pu vivre de leur travail sur leurs terres. Autrement dit, les affranchis ont travaillé sur les terres qui étaient celles de leurs anciens propriétaires qui ont gardé leurs terres. Voilà. Et ça s'est passé, non seulement ça s'est passé ainsi, mais de surcroît, dans le cas français comme dans le cas britannique, des lois ont été votées qui dédommageaient les propriétaires d'esclaves. N'est-ce pas ? La loi de 1849, par exemple, une loi très importante, est une loi qui a dédommagé, votée par le Parlement français, a dédommagé les propriétaires d'esclaves français de la perte occasionnée par l'affranchissement. Et c'est à cette occasion-là, comme l'évoquait Jean-François, que Schœlcher a tenté d'introduire un amendement à la loi qui précise que non seulement les propriétaires, mais aussi les esclaves soient dédommagés. Et cet amendement a été repoussé de telle sorte que les propriétaires d'esclaves ont bien été dédommagés et largement. Il y a des études notamment qui ont été faites sur les dédommagements des propriétaires anglais, parce que la loi anglaise a été encore plus généreuse que la loi française, pour montrer que les anciens propriétaires d'esclaves anglais, britanniques, disons, se sont fantastiquement enrichis par les sommes reçues de l'État britannique, qui ont constitué des portions très importantes du budget de la couronne dans les années 1830 pour rembourser. Donc ils ont été largement dédommagés au-delà de la valeur intrinsèque de leur, ou économique de leur bien, et en plus ils gardaient leurs terres. Donc ils s'en sont très très bien sortis, les propriétaires d'esclaves français ou les anciens propriétaires d'esclaves français et britanniques. Du côté des Américains, c'est un peu moins le cas parce qu'il y a eu la guerre de sécession. Donc à l'issue de la guerre, qui a été d'une grande violence, il était hors de question pour l'État de Washington, il était hors de question de rembourser les propriétaires d'esclaves du Sud, ce qui avait été envisagé avant la guerre par Lincoln. Mais la guerre est intervenue pour durcir les positions, il y a 600 000 morts, plus possible d'envisager le dédommagement des propriétaires, mais pour autant, les esclaves, sauf très marginalement par une petite distribution de terres fédérales, de terres qui appartenaient à l'État, les esclaves du Sud des États-Unis n'ont rien reçu après leur affranchissement. Et donc cette situation-là est une situation qui permet en particulier de comprendre dans le cadre d'économie de plantation, d'économie rurale, le fait que les esclaves aient été exploités, soumis à des formes de péonnage, comme on dit, avec des dettes qu'ils accumulaient d'année en année et donc qui les liaient pieds et poings aux propriétaires de terre, et qui, donc, de fait, prolongeait des structures de domination, bien que, formellement, ces personnes-là n'étaient plus esclaves. Ça, c'est un élément tout à fait décisif.
Et du coup, pour les réparations, alors, du coup, voilà. Ça t'amène, toi aussi, à considérer vraiment cette question comme une question grave et importante,
tu vois, c'est une question qui se pose. D'ailleurs, j'ai vu récemment qu'en ce qui concerne certaines îles des Caraïbes, je ne sais plus quelle île, Saint-Kitts-et-Nevis peut-être,
Saint-Vincent,
hein, que le Premier ministre, ou en tout cas qu'une autorité politique locale, avait exprimé avait mis sur la place publique la question des réparations.
Il y a plusieurs États de la Caraïbe
qui
s'engagent dans le processus. Oui.
Mais en effet.
Sous quelle forme ? Parce que je crois que vous distinguez réparation financière, réparation symbolique, réparation politique.
Voilà. C'est-à-dire que ma position est à peu près la suivante. Les réparations qui ont été envisagées officiellement dans la plupart des pays, je pense aux États-Unis par exemple et aussi à la France, sont des réparations symboliques. La loi Taubira, elle a beaucoup d'importance. La loi Taubira, c'est, on pourrait y revenir, mais c'est quelque chose de très important. Des dispositions muséales, la construction du grand musée afro-américain à Washington qui va ouvrir l'année prochaine ou dans 2 ans. Voilà, des dispositions également visant à rappeler l'importance mémorielle, les dispositions scolaires, etc., la journée annuelle de commémoration du 10 mai, etc. Voilà des dispositions qui sont tout à fait importantes, mais qui me semblent insuffisantes. D'un autre côté, la réparation financière me paraît également très difficile. Elle me paraît très difficile d'un point de vue juridique, et elle paraît très difficile aussi au vu des modes de distribution financière qu'il faudrait imaginer. Comme le disait en plaisantant Skip Gates, qui est un grand spécialiste d'études afro-américaines à Harvard, je ne m'imagine pas, dit Skip Gates, hein, je me fais son porte-parole, recevoir un chèque par la poste. Il n'en a absolument pas besoin, tout va bien pour lui d'ailleurs. Vous imaginez ça, et puis on pourrait juridiquement arguer que aujourd'hui la population américaine est faite de personnes qui sont majoritairement issues de migrants qui sont arrivés après l'esclavage, donc la question de la réparation qui normalement doit être faite par quelqu'un qui a commis le tort envers la personne qui a subi le tort, que cette question-là est quand même très problématique juridiquement, enfin qu'elle se heurte à toutes sortes d'obstacles. Et donc ma position, c'est plutôt celle d'une réparation politique. Par réparation politique, on veut dire que l'esclavage ne peut pas être réparé. En revanche, ce qui peut être réparé, ce sont les conséquences contemporaines de l'esclavage, dont on parle justement, dont on a parlé, c'est les systèmes inégalitaires, la question de la propriété des terres qui se pose, hein, y compris si on va en Martinique, pas besoin de rester longtemps en Martinique pour voir comment les choses se passent là-bas, la question de l'accès à l'école, la question des bourses, enfin, toutes ces questions-là sont des questions sur lesquelles politiquement on a prise, n'est-ce pas ? Et donc, il me paraît tout à fait possible d'envisager des formes de réparation par lesquelles on économise le détour par le passé pour savoir qui a eu des ancêtres esclaves et qui non, et comment on répare un crime d'une telle ampleur, ce qui pose d'énormes problèmes, comme j'ai dit, pour ne se concentrer, si je puis dire, que sur les situations contemporaines, en essayant le plus possible de gommer des disparités et des inégalités choquantes dans ces régions dont il est assez clair qu'elles ont à voir avec l'esclavage. Et donc là, je pense que non seulement c'est juridiquement possible, mais que c'est susceptible de recevoir l'assentiment d'une partie importante de la population qui considère justement que ces inégalités-là méritent d'être réduites parce qu'elles sont en elles-mêmes choquantes, parce qu'elles sont inadmissibles, parce qu'elles contreviennent aux principes fondamentaux de la République.
Jean-François Dumeret, est-ce que la réponse est satisfaisante ?
Moi, je vais plus loin que Pape. Je suis déjà un peu engagé dans le processus, notamment en mai dernier à Bruxelles, à l'initiative de Jean-Jacques Bisset, qui a organisé une semaine de commémoration de l'esclavage, enfin essayant d'obtenir une journée européenne, mais dans l'objectif plus lointain d'en arriver à cette question. Moi, juridiquement parlant, d'un point de vue purement juridique, je ne ferme aucune option. La réparation politique, par définition, serait une réparation plutôt collective, par définition, et elle est nécessaire, notamment, effectivement, au niveau agraire. Moi, je rajouterais mon cheval de bataille actuel dont on parlait tout à l'heure, la pollution chimique des Antilles avec le chlordécone, qui est la conséquence directe, pour moi, en tant qu'historien, du droit en particulier, direct de l'époque esclavagiste, parce qu'on est toujours dans la même logique de dérogation juridique au droit commun. Le chlordécone, il a été autorisé dans ces territoires pour la même raison que le code noir y a été établi, c'est-à-dire en dérogeant au droit commun français national. Donc on est toujours, bien qu'on ait aboli l'esclavage et départementalisé ces territoires, dans cette logique de deux poids, deux mesures, et ça, c'est très grave dans ce que ça véhicule, non pas seulement juridiquement, mais de mentalité du pouvoir central vis-à-vis de ces territoires qui sont pourtant pleinement français, qui devraient en tout cas être traités pleinement comme des territoires français, avec cette égalité justement qui devrait prévaloir et qui ne le fait pas. Mais je ne suis pas non plus fermé à des réparations individuelles. Il y a une personne ici qui est directement concernée par ça, et juridiquement, alors là d'un point de vue plutôt de droit privé, en droit privé, à partir du moment où il y a préjudice, à partir du moment où on peut aussi relier par une chaîne de preuves en termes d'état civil, parce que vous savez qu'en droit on indemnise pas seulement le préjudice matériel mais aussi psychologique, la souffrance psychologique qu'on peut subir par exemple suite à des mauvais traitements, suite à la perte d'un être cher, ça s'appelle le pression doloris, le prix de la douleur. Donc une personne qui ressent le besoin profond de faire une telle démarche, moi je ne vois pas au nom de quoi on interdirait de le faire en lui disant non, il faut passer tous par des réparations collectives. Ceux qui, comme ce prof de Harvard que tu citais, ceux qui n'en éprouvent pas le besoin, et il y a pas mal de gens qui prennent aussi cette position aux Antilles-Guyane, tant mieux pour eux, à la limite, je dirais, mais des personnes qui en éprouveraient le besoin, vraiment de manière très, très, très forte, je ne vois pas au nom de quoi le droit leur refuserait ça, puisque dans d'autres domaines de préjudice, qui peuvent même paraître parfois surprenants aux citoyens moyens, le droit français indemnise déjà, hein, il indemnise de façon souvent surprenante, hein, tout un tas de préjudices que les personnes peuvent... par exemple, le prix de la douleur d'un être cher, si on regarde bien d'un point de vue, on pourrait très bien faire le même raisonnement que certains font à l'égard des réparations de l'esclavage en disant comment peut-on indemniser la souffrance que vous ressentez suite à la perte de votre enfant par argent. C'est-à-dire, si on vous donne 300 000 euros, ça va atténuer votre souffrance. Le droit français l'accepte, il y a même des barèmes qui sont constitués par la jurisprudence en accord avec les compagnies d'assurance et tout. Donc, pourquoi pas, au nom de quoi on interdirait à une personne qui estime souffrir d'une ascendance servile et de conséquences psychologiques que ça peut avoir dans son anamnèse personnelle, pour parler un peu comme les psychanalystes, au nom de quoi on interdirait, à partir du moment où ça serait prouvé, établi par exemple en une expertise psychologique, et que ça serait... qu'ensuite l'imputabilité serait prouvée avec une chaîne d'état civil qui remonterait... jusqu'à une ascendance effectivement servile absolument incontestable, là, je ne sais pas de quoi... Bon, après, pourrait s'établir une sorte de jurisprudence casuistique, hein, comme sait le faire la jurisprudence en France, pas seulement aux États-Unis, c'est vrai que les États-Unis sont très, très forts pour la casuistique, mais en France aussi, et progressivement, il pourrait se mettre en place de concert avec la réparation politique, qui, elle, serait plutôt l'objet de négociations, finalement, entre l'État français, puis peut-être différents organismes de représentation et pourquoi pas du référendum, des choses comme ça carrément, de manière purement individuelle, pourrait aussi se mettre en place des mécanismes de réparation comme ça, très, très, très personnalisés, si on peut dire, très individualisés. Moi, je vois pas d'inconvénient.
D'accord. Non, je suis en sympathie intellectuelle. Je m'arrête simplement sur les difficultés juridiques. Mais alors là, ce dont je suis encore plus sûr, parce que je ne suis pas juriste, c'est des difficultés politiques. Par exemple, dans le cas des Américains, tous les sondages montrent, par exemple, que, alors là, si vous voulez que les gens grimpent au rideau, pardonnez-moi l'expression, il suffit d'interroger les Américains sur la question des réparations. Et alors là, on a une majorité, mais on n'est pas loin du 100%, c'est quand même arrivé, pas souvent, quand on interroge les Américains blancs en leur disant est-ce qu'il faudrait verser des réparations, la réponse est unanimement non, mais alors un non clair, hein. Et en ce qui concerne la population afro-américaine, là c'est beaucoup plus partagé. Mais à l'arrivée, je participais à un colloque en Virginie il y a quelques mois sur la question. Il y a des positions différentes, etc. Mais politiquement, la question est hors de portée. hors de portée. Et donc, pragmatiquement, hein, dans l'espace du possible, ce qui ne signifie pas qu'il faille élargir l'espace du possible, mais dans l'espace du possible, il me semble qu'il est quand même possible d'agir. Alors, aux États-Unis, par exemple, les réparations, elles prennent actuellement la forme pour des entreprises qui ont, notamment des entreprises d'assurance, hein, qui ont prospéré jadis en assurant des esclaves, parce que les esclaves pouvaient être assurés, hein, par les propriétaires, et il y a donc une filiation juridique claire d'entreprises aujourd'hui qui doivent en partie leur prospérité sur l'assurance d'esclaves il y a plus d'un siècle et demi. Eh bien, ces entreprises-là réparent, enfin, se sont engagées à verser des réparations, mais ce ne sont pas des réparations individuelles, ce sont des réparations qui se font, par exemple, sous la forme de bourses universitaires versées à des étudiants minoritaires. Voilà, typiquement.
J.P. Morgan.
Voilà, par exemple. Et des firmes californiennes aussi qui sont très impliquées là-dedans. Vous voyez ce genre de choses. Ou bien encore des fonds versés à la NAACP, la grande association qui lutte pour les droits civiques, des fonds versés par exemple par une firme de la région de San Francisco pour de la réhabilitation de quartiers urbains dégradés d'Oakland. Voilà, des formes par lesquelles on ne vise pas individuellement les personnes, mais on vise un groupe qui est historiquement issu du monde... des esclaves sans s'occuper de vérifier individuellement si c'est bien le cas, mais en considérant que les bourses ou que la rénovation d'écoles et que ce genre de choses participent de l'amélioration de la situation du groupe en question et que cela relève d'une responsabilité particulière pour cette firme, pour la firme en question. Donc cette firme va le faire, ce que Apple, par exemple, à côté, ne fera pas, même si on pourrait considérer que Apple pourrait aussi le faire, au nom d'inégalités contemporaines qui sont en elles-mêmes suffisamment choquantes pour motiver l'engagement de toute personne de bonne volonté. Mais il y a une responsabilité historique particulière qui pèse sur ces firmes. Donc voilà où on en est aux États-Unis. On est dans des démarches qui sont des démarches... collective, pour reprendre le distinguo qu'on opérait, faite par des entreprises. Il y a une loi californienne d'ailleurs qui sent obliger les firmes à le faire, en tout cas oblige minimalement les firmes en Californie à tirer au clair leur relation avec le passé esclavagiste. Minimalement, elles doivent ouvrir leurs comptes, leurs livres.
À Chicago aussi, je crois.
À Chicago aussi, peut-être. Et donc, dans plusieurs endroits des États-Unis, en effet, ce qui est, par la suite, évidemment, un point d'appui, lorsque l'on a prouvé quelque chose, à des demandes et à des politiques de réparation. Donc, simplement le fait de la transparence, de l'ouverture des livres d'histoire est déjà en soi une étape tout à fait importante et tout à fait utile dans une démarche de réparation.
Alors qu'en France, on n'a pas l'impression que ça avance.
Non, je n'ai pas l'impression. Jean-François.
Ben, il faut continuer. Hein. Bon, c'est sûr que tout. Alors, l'opinion publique, bon, c'est vrai, mais en même temps, bon, c'est aussi à force de faire un travail peut-être pédagogique. Bon, moi, je sais pas. Par exemple, j'ai fait l'expérience avec mes étudiants du master Sciences Po qu'on a là-bas en Guadeloupe, en leur passant juste un seul film, Black Panther Party de Mario Van Peebles. Mm-hmm. Ben, entre l'avant et l'après le film, la proportion d'étudiants prêts à envisager la question des réparations avait augmenté énormément. Bon, je pense qu'en touchant les gens, faisant un travail pédagogique, bon, les gens sont tous sensibles à la question de la justice. Je pense qu'on peut faire évoluer les choses petit à petit. Bon, c'est toujours lent, les mœurs, ça va toujours très lentement. Je pense par exemple à l'abolition de la peine de mort en 1981. Elle s'est faite dans un contexte où l'opinion publique n'était pas favorable, qui a passé ça comme une valeur, bon, comme un absolu. Oui. Bon, puis progressivement, bon, ça a fini. Alors, comme disait Jean Carboni, encore une fois, je le cite une deuxième fois, ce grand sociologue de droit, il disait, bon, au fur et à mesure, le droit peut avoir aussi un effet un peu pédagogique sur les mœurs, quoi. Parce que le droit, ça véhicule des valeurs. Là, du coup, je rejoins un peu ce que disait Pape tout à l'heure sur le moras dans la Constitution. C'est vrai que le droit aussi, parfois, il fait bouger les valeurs de par l'autorité qui s'attache quand même à une règle de droit, le fait que l'État soit derrière, qu'il y ait des politiques publiques derrière, des sanctions par les tribunaux qui soient effectives. ça peut finir par agir sur le corps social et pousser à l'évolution des mentalités. Hein. Donc, continuer à faire surtout beaucoup de pédagogie. Peut-être qu'effectivement, il faudrait affiner la pédagogie, être moins dans la revendication, mais plus dans la compréhension et faire naître un peu plus de compassion de la part du grand public par rapport à ce que ça a été. À force d'en parler, peut-être de manière aussi assez dépassionnée, comme le fait Pape, de manière scientifique, documentée, argumentée, statistique à l'appui, que l'opinion publique prenne conscience qu'il y a un vrai besoin, il y a un vrai problème, il y a une vraie souffrance, et que ça serait juste, quoi. C'est une question de justice.
Vous prononciez le mot de Chicago. Je vois l'histoire de Chicago. On n'en a pas beaucoup parlé. On va peut-être en parler un petit peu maintenant. Est-ce que c'est tout ce qui vous mobilise, Pape Ndiaye, ces questions d'histoire des minorités qui vous a amené à vous intéresser particulièrement à Chicago?
Oui, parce que Chicago est généralement considéré comme la capitale de l'Amérique noire. Amérique au sens États-Unis, hein, bien entendu. Même si Chicago a une aire d'attraction qui s'étend au-delà des États-Unis, il y a des communautés caribéennes, par exemple, installées à Chicago, il n'en demeure pas moins que depuis les années 20, c'est-à-dire depuis le moment où une population afro-américaine significative s'y est installée, depuis le sud des États-Unis, en particulier de cette région du Mississippi, de l'Alabama, de Louisiane, toute la région du delta du Mississippi qui est irriguée par les voies de chemin de fer qui remontent le long du Mississippi vers Chicago. C'est donc à partir des années 20 qu'une population afro-américaine très importante s'est installée à Chicago, qui a grossi d'ailleurs à partir de la Seconde Guerre mondiale pour des raisons similaires à celles de la fin des années 1910, Première Guerre mondiale et des années 20, l'attraction du travail industriel, le fait de quitter le sud ségrégué, le sud des lynchages, le sud de la violence et de la misère. Chicago est devenue une énorme ville noire comparable à New York, au Harlem de New York. Et le quartier de Chicago, c'est le South Side, en particulier il y a le West Side, mais le South Side est devenu le grand quartier noir comparable à Harlem à New York. Et c'est là que des institutions politiques se sont construites dans le monde noir dès la fin des années 1920, avec un électorat qui élit ses premiers représentants à Washington, Oscar de Priest en 1928. C'est là que des entrepreneurs noirs ont fait une sorte de capitalisme noir qui existe encore aujourd'hui, notamment autour de publications, Ebony, enfin tout le monde des publications, de firmes qui sont des firmes nationales, qui ont leur siège à Chicago et qui trouvent leur origine dans le monde noir de Chicago. C'est aussi une capitale musicale, bien entendu, hein, le blues, le jazz, c'est là que ces formes qui viennent du sud de la Nouvelle-Orléans, par exemple pour le jazz, avec Louis Armstrong qui s'établit à Chicago à partir de 1922, trouvent des expressions en se mêlant et en se métissant avec des formes musicales venues d'Europe. En particulier, on ne soulignera jamais assez l'importance du folklore irlandais dans la musique noire américaine, hein, par ces rencontres qui s'opèrent à Chicago, sans parler du blues, le blues de Bessie Smith, le blues électrifié de Muddy Waters à partir des années 1940.
Les Irlandais qui n'ont pas été toujours très gentils avec la communauté noire.
C'est le moins qu'on puisse dire, oui, dans des formes de compétition et de rivalité économique dans les échelons les plus bas du prolétariat. Les Irlandais ont eu mauvaise réputation dans le monde noir, à coup sûr, et comme Chicago était en partie tenu par le monde irlandais, via la police, via les institutions municipales, ça s'est passé souvent de manière assez violente, mais les rencontres, elles peuvent se faire aussi de manière violente, bien entendu. Donc ça explique l'importance de Chicago dans le monde afro-américain, jusqu'à Obama, peut-on dire, puisque si Obama, qui n'est pourtant pas natif de Chicago, s'y installe à partir de 1988 et qui, après son retour de Harvard, commence sa carrière politique là, là même où Oscar de Priest a été élu dans cette partie qui est tout proche de l'université de Chicago, qui est le quartier de Kenwood, là où il a sa maison d'ailleurs, ça n'est pas un hasard. Il a choisi Chicago parce que c'est le lieu par excellence de la politique afro-américaine aux États-Unis. Et Obama, bien entendu, a aussi su s'affranchir de ça, ne pas être simplement le représentant de sa communauté, mais il a visé nationalement dès le début de sa carrière politique. Donc c'est une des raisons importantes pour lesquelles j'ai choisi avec Andrew, qui a coécrit ce livre avec moi, j'ai choisi Chicago. Puis l'autre raison parallèle à cela, c'est une raison liée à la place de Chicago dans les imaginaires. Si je vous dis Chicago, ça suscite en vous peut-être des images qui sont celles de je sais pas, d'Al Capone, peut-être, des incorruptibles, sans parler d'Obama aujourd'hui, et puis de la musique dont je parlais, tandis que l'histoire de Denver, par exemple, dans le Colorado, aussi intéressante soit-elle, ne suscite pas les mêmes images. Donc Chicago a une présence dans la carte imaginaire du monde, qui est aussi due au fait que c'est une immense ville, qui est le prototype même, je dis ça et puis j'arrête pour ne pas être bavard, mais qui est le prototype même de la ville champignon. C'est 4000 habitants, Chicago, vers 1840. 4000 habitants, c'est une petite bourgade française. Hein, vous connaissez sûrement des villes de 4000 habitants, vous voyez, c'est quand même pas grand-chose. En 1900, 60 ans plus tard, c'est la cinquième ville du monde. Voilà. Et je ne connais pas dans l'histoire du monde, avant la période très récente des villes chinoises, de modèle Shenzhen, de ces villes dont on n'avait jamais entendu parler il y a 20 ans et qui sont maintenant des villes qui sont dans le top 20 des villes du monde. Mais je ne connais pas avant la Chine d'exemple de villes qui, de rien du tout, en 60 ans, soient devenues la cinquième ville du monde. Je n'ai pas en tête d'exemple comparable dans l'histoire des hommes avant et puis jusqu'à la fin du XXe siècle d'une telle progression spectaculaire d'une ville qui, malgré des à-coups comme le grand incendie de 1871, devient vers 1900 une ville dont tout le monde a un peu entendu parler dans le monde.
Et pour quelle raison ?
L'industrie. Et une ville de la grande industrie, des usines géantes, des abattoirs qui fascinent tant Tintin quand il y va à la fin des années 20. Hergé n'a jamais mis les pieds aux États-Unis, mais il a lu. Il a lu au moins Georges Duhamel et ses scènes de la vie future qui consacre un chapitre dantesque aux abattoirs de Chicago, les aciéries géantes, les usines. Là, c'est une ville de grandes usines. Contrairement à New York, d'ailleurs, qui est une ville de petites usines, d'ateliers, de confection, etc. Chicago, c'est la ville des grandes usines. Comparable à Detroit, de ce point de vue-là, la grande ville de l'automobile. Qui dans la progression est assez comparable à un niveau moindre à celle de Chicago. Mais vous aurez noté que Detroit est en chute libre, on en parle tellement aujourd'hui, 2 millions d'habitants vers 1950, on est à 600 000 aujourd'hui, puis ça continue à baisser parce que c'est une ville mono-industrielle historiquement, c'est la ville de l'automobile. Alors que Chicago a une partition industrielle et a des ressources par ailleurs dans le domaine universitaire, dans le domaine financier, dans le domaine de la recherche, etc., qui lui ont permis de surmonter la grande crise des années 60 et 70, qui a vu les abattoirs fermés, les aciéries fermées, etc. Mais le destin de Chicago n'est pas le destin de Detroit. La ville s'est remise de ses saignées industrielles et d'emploi de l'époque pour se renouveler en dépit de ses difficultés structurelles actuelles, de son taux de chômage, et de la misère d'une partie de sa population.
Vous en avez un petit peu parlé, mais pour quelle raison, en quoi Chicago, la question noire et Chicago, c'est différent de la question noire et du reste des États-Unis ? Qu'est-ce qui est particulier ? Qu'est-ce qui fait que vous consacrez tout un chapitre, je crois que c'est chapitre 5 au Chicago noir, on voit que très tôt les Noirs étaient à Chicago, mais pas comme ailleurs aux États-Unis, hein. En particulier ces immigrants qui viennent d'arriver, qui écrivent des lettres à leur famille et qui sont très contents d'être à Chicago. Dans certains restaurants ou certains hôtels, il y a un personnel noir et c'est l'élite qui vient dans ces établissements. Quel est le statut, quelle est la condition noire à Chicago ?
Je dirais qu'il y a des éléments qui sont structurellement similaires à ceux du nord des États-Unis et du Midwest. À savoir que cette région échappe à la ségrégation et aux lois qui se mettent en place après l'esclavage, qui réduisent dans le sud la population noire à une situation qui est une situation de métayer misérable, dominé et terrorisé. À Chicago, ça n'est pas le cas, comme à New York d'ailleurs, de telle sorte que ces villes sont des havres qui apparaissent comme des lieux de liberté, où on peut s'asseoir dans le bus à côté d'un blanc sans que ça fasse scandale, où on n'a pas à craindre de croiser le regard d'une femme, etc., etc. Donc il y a déjà ça, la ville comme une ville de liberté.
Et les mariages interraciaux sont tolérés?
Il y en a. Parce que l'Illinois, l'État de Chicago, ne les interdit pas. Alors que dans 30 États sur 50, jusqu'en 1967, c'est quand même très récent, jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême, qu'on appelle l'arrêt Loving d'ailleurs, bien nommé, parce que les plaignants, leur nom de famille, c'était Loving. Oui, non pas parce que la question de l'amour est en jeu, mais c'est un hasard merveilleux.
Ça tombe bien, oui.
Jusqu'à cet arrêt de la Cour suprême, dans 30 États ou 29 États, ça dépend comment on compte, sur 50, les mariages dits interraciaux étaient interdits aux États-Unis. Pas simplement les États du Sud profond. Eux, oui, mais aussi tout un tas d'États du Midwest, des États comme le Nouveau-Mexique, du Sud-Ouest, avec des combinaisons qui peuvent varier. On peut inclure les Hispaniques, on peut inclure les personnes d'origine asiatique, selon des combinaisons tout à fait baroques. Des inventaires très baroques dans le droit. Donc l'Illinois échappe à ça. Donc c'est quand même quelque chose. Et donc on peut trouver des couples mariés, noir-blanc, à Chicago. C'est même relativement courant dans le monde artistique, dans un monde exactement comme à New York, de ce point de vue-là, dans un monde de bohème littéraire où la transgression passe aussi non seulement par des styles de vie alternatifs, mais aussi par le fait de se marier avec celle ou celui qui n'est pas de sa couleur de peau. Et par ailleurs, Chicago a une force, c'est donc une ville d'emploi, ça c'est comme Detroit de ce point de vue-là, mais aussi une ville où il y a un monde intellectuel et une élite noire sans doute plus constituée que dans d'autres villes comme Detroit. Une élite noire qui parfois roule carrosse d'ailleurs, qui édite des livres, qui publie le Chicago Defender, le grand journal afro-américain qui devient le grand journal national du monde noir américain. Donc il y a un ensemble de raisons qui donnent à Chicago, sans qu'aucune de ces raisons soit à elle seule suffisante, mais cet ensemble permet de comprendre l'attraction exercée par Chicago sur le monde noir. D'ailleurs, quand je vivais à Chicago, je me souviens d'avoir rencontré des Caribéens, un grand nombre. À Chicago, il y a beaucoup de Jamaïcains, par exemple, qui s'y installent dès les années 1920, en fait. Et puis, on trouve aussi tout un monde de Caribéens français. Il y a des Martiniquais et des Guadeloupéens, comme à Montréal, d'ailleurs, pas très très loin. Il suffit, il y a des lieux de sociabilité.
Des Haïtiens,
il y a une grosse communauté haïtienne. Absolument, qui est installé là-bas, comme à Montréal en particulier. Donc c'est une ville qui attire historiquement les mondes noirs dans toute leur diversité.
Question. Nous avons rapidement évoqué ce gros livre « Histoire de Chicago », rapidement évoqué ce petit livre « Par la taille ». Code noir par Jean-François Niort et très rapidement également La condition noire. Si vous avez des questions, profitez-en avant des signatures éventuelles de livres à la sortie. À vous la parole. Comme il n'y a pas de micro, c'est plus simple. On n'attend pas le micro. Qui veut prendre la parole, poser une question, profitez-en.
Si personne ne se lance, moi j'aimerais bien donner la parole à Rosita, qui était concernée tout à l'heure par la question de la réparation à titre individuel, si tu veux t'exprimer, si tu as vu comment. Par rapport à ce que j'ai dit, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou à compléter ?
Il est évident que de toutes les façons, ce qui n'existe pas, c'est à nous de l'inventer. En termes de législation, en termes de jurisprudence, il y a des choses, c'est à nous de le créer. Personnellement, ça ne m'arrête pas de me dire, oh, ben, tu vois, ça n'a jamais été tenté auparavant, ça va être impossible. Non, ça, ça ne sera pas impossible, parce que je vais le faire, et que rien ne va m'empêcher de le faire. C'est aussi simple que ça.
D'ailleurs, il y a des précédents hein, dans d'autres domaines, en ce qui concerne des réparations qui ont été versées à des Native Americans, à des Indiens d'Amérique, ou bien pour un espace-temps plus restreint, des réparations versées aux survivants, victimes, parents de victimes de la Shoah.
Mais en fait, dans l'inconscient collectif, les gens se disent... Oh, un travail colossal parce que est-ce qu'une femme noire peut se positionner comme une femme blanche? Est-ce que je peux prétendre aux mêmes choses et aux mêmes exigences que si j'avais été une femme blanche? Et c'est ça, la démonstration va se faire à ce niveau-là. C'est un très bon niveau d'enjeu.
Parce qu'en réalité, comme tu viens de le dire, il y a une double problématique. Il y a la problématique de la race, entre guillemets, et du genre et du sexe. Parce qu'à l'intérieur de la question noire, il y a peut-être aussi une question féminine noire, de femme noire, dans en particulier dans la série des conséquences de l'esclavage. Donc, effectivement, tu évoques cette double dimension de femme et de femme noire.
C'est un champ universitaire, un champ d'études, hein, ce qu'on appelle le black feminism aux États-Unis, le féminisme noir, qui essaie de penser des formes de revendications féministes qui soient un peu différentes d'un féminisme qui, historiquement, est un féminisme de femmes blanches, pour le dire vite, et qui peut aller à rebrousse-poil des féministes blanches dont elles vont dénoncer... à la fois la position de classe et surtout l'inattention aux questions de racisme, et puis à l'égard des hommes noirs aussi, cela heurte, puisque leur positionnement va heurter des militants noirs qui estiment que la priorité, c'est un front commun hein, par rapport à la discrimination raciale et au racisme, et que les questions féminines, on les met de côté, c'est un front secondaire, pour reprendre le vieux vocabulaire marxiste, et qu'il ne faut surtout pas donc, introduire des alors que les questions de domination genrée, comme on dit, se posent de façon tout à fait évidente dans le monde noir en général.
On l'a vu en France pour avec la question du voile, qui a ébranlé aussi certains mouvements féministes. Cette question-là remettait en cause
les éléments. Oui, absolument. C'est ce genre de problème.
Madame. Si je peux me permettre, je crois qu'aux États-Unis, on ne parlait justement pas de black feminism, mais la spécificité, ça a été le black womanism, qui à un moment donné s'est développé, je ne sais plus, c'était les années 80, etc. Parce que les féministes noires repartaient justement du contexte de l'esclavage, où on empêchait les Noirs de faire société, donc de créer des familles. Et le black humanism, justement, s'articule autour de la famille, de la place de la femme noire, mais avec la famille. Alors que les féministes blanches, elles, articulaient toutes leurs revendications sur un centrage individuel, c'est-à-dire qu'en tant que femmes, elles avaient été niées, etc. Là, les femmes noires, elles, englobaient toute la question de la famille qu'elles devaient tirer derrière elles. C'est pour ça qu'on appelait ça le black humanism. Et c'est quelque chose qui, chaque fois qu'il y a eu des groupes, des femmes noires à droite à gauche dans le monde, même si on n'a pas employé cette terminologie, c'est quelque chose qui, est tout de suite, qui s'est tout de suite imposé. C'est-à-dire qu'on ne voyait pas la libération de la femme noire comme quelque chose d'individuel. On traînait les enfants, on traînait les grands-parents, les collatéraux, on traînait tout le monde dedans. Parce que, bon, je ne sais pas, la sociologie ancestrale n'est pas la même. Mais, dans le mental, c'est pas la même chose non plus. Tout à l'heure, vous avez parlé, quand Jean-François parlait des réparations, vous avez posé le problème de la terre de manière isolée. Mais la terre, c'est quoi? C'est la terre défrichée par les Africains, dans les Amériques. L'enjeu, c'est pas la terre, c'est la propriété. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, on a eu association de malfaiteurs? Est-ce que oui ou non, il y a des biens volés? Est-ce que oui ou non, il y a des receleurs? C'est ça, donc que ce soit sous forme de terre ou bien de l'immeuble qui est en face, c'est la propriété dont il est question. C'est-à-dire que c'est une propriété qui a été qui s'est fondée sur le vol. C'est de ça. Donc on commence par parler de la terre. C'est gentil parce que peut-être ça fait plaisir. Ça passe mieux parce que la terre, ça donne l'idée que bon, ben, les braves garçons, ils vont aller cultiver leur lopin de terre. C'est pas pareil que de dire que tiens, ils vont aller regarder le meuble qui est là en se disant mais d'où vient cet argent. Bon, donc c'est peut-être diplomatiquement, c'est peut-être ça se conçoit. Mais si on veut aller sur le fond des choses, que l'esclavagiste ait mis son argent dans la banque, ou bien qu'il ait mis dans l'hôtel qui est en face, ou dans le meuble qui est en face, ou qu'il ait mis dans des plantations de bananes et qu'il ait conservé ça en Guadeloupe aujourd'hui, avec ou sans chlordécone, le problème c'est la propriété, l'origine de cette propriété. Est-ce que cette propriété est légitime? Est-ce que oui ou non c'est des biens volés? Ça, c'est... Et puis ça pose le problème. Vraiment, c'est juridique. Moi, je ne suis pas juriste, mais ça tombe sous le sens. Quand, par exemple, les gens se sont libérés à Saint-Domingue, qui est devenu Haïti, donc, bon, on sait que la France a été contrainte devant le fait accompli de faire une abolition en 1994. Bon. Mais qu'est-ce qui ressort quand on rétablit l'esclavage 8 ans plus tard, Napoléon? Qu'est-ce qui ressort? C'est de dire que, mais vraiment, on a aboli. Et les gars, ils ne voulaient pas aller travailler dans les champs de l'enfantion même. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissaient même pas. Il y a un texte qui dit, ils mettent, donc les esclaves ou les Africains de l'époque, c'est-à-dire ils mettent en doute l'origine même de la propriété, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas que ces terres-là appartiennent aux esclavagistes. Ils voient qu'ils ont défriché des terres, que la terre est à tout le monde, c'est eux qui l'ont défriché à l'État. Point barre. Donc c'est la question de la reconnaissance même du droit français, en l'occurrence, qui est en question, le droit de la propriété. C'est pas seulement est-ce qu'elle est légitime ou pas, c'est que vous êtes devant des gens qui vous disent votre droit, on ne reconnaît pas. Et quand il y a la première abolition, quel est l'objectif des gens qui viennent d'être libérés? Soit d'intégrer l'armée parce qu'ils veulent récupérer les armes. Parce qu'ils bon, ils voient très bien la situation, donc il faut arriver à manier les armes, il faut rentrer dans l'armée, parce qu'il faut rentrer dans le monde des armes, parce qu'en fait, tout le droit occidental est basé sur la force des armes. Donc il faut à tout prix rentrer dans ce truc-là, dont on a été exclu. Et puis l'autre chose, c'est de dire qu'on ne va pas travailler sur l'État, c'est nos terres. C'est nous-mêmes qui les avons défrichées. Et juste la preuve du contraire, la terre est à tout le monde, et ce qui appartient à quelqu'un, c'est le travail qu'il a fait. J'ai planté un arbre, je dis, je récolte des fruits parce que j'ai planté l'arbre. Donc là, c'est moi qui ai défriché, et cette terre-là, elle n'est pas planteur ou type de l'habitation, ça c'est clair et net et je ne vais pas travailler dessus. Et quand ils rétablissent, ils disent que mais on, ils ne reconnaissent pas nos droits, quoi. Donc il n'y a pas 36 solutions, il faut rétablir l'esclavage. Parce que l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est d'asservir la créativité, le savoir-faire, parce que les Africains sont venus avec leur agriculture, avec leur... il y avait des forgerons, il y avait tout. Donc le savoir-faire des gens, leur créativité et la force de travail musculaire, c'est de la servir au capital de la caste blanche dominante. C'est ça l'enjeu jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que si... Donc c'est ça, quoi, l'enjeu. Et c'est ce que ces Africains-là de l'époque, d'ailleurs on les appelle des Africains, on ne les appelle pas Guadeloupéens, on les appelle des Africains, c'est ce que les Africains refusent. C'est-à-dire qu'ils disent carrément que là, votre droit, là, c'est un droit de voleur, on n'en veut pas et on ne le reconnaît pas. C'est ça qui se pose. Donc, terre ou pas terre, terre ou
hôtel
d'en face, le problème est plus profond que ça.
Oui, mais là, tu atteins le... Là, il faut faire la révolution.
Non, mais là...
Parce que là, si tu veux, ce que tu décris, c'est le capitalisme tout entier. Ce que tu dis, la propriété, c'est le vol. Proudhon le disait déjà dans un livre célèbre. Au milieu du 19e siècle, la propriété, c'est le vol. Qui à lui tout seul était une bombe pour faire exploser l'ensemble du système. Donc du coup, c'est pas seulement les Africains qui sont concernés, c'est l'ensemble des prolétaires, l'ensemble des salariés, qui eux aussi sont dépossédés de la propriété de ce qu'ils fabriquent, oui, par le phénomène du capitalisme.
On en revient, alors là je vais subvertir votre choc des civilisations, la vie, parce que quand les travailleurs ici peuvent poser le problème, bien sûr que si en tant que noir, le mouvement noir de libération, il prend le truc. C'est pas à nous d'aller voir si les gens à Lille ou ailleurs vont aller voir les filatures ou les machins à qui ça appartient. Ça, c'est leur problème, donc ça, on va s'en débrouiller. Mais ce qui se pose, c'est que pour l'instant, le monde blanc, il n'est pas colonisé par d'autres gens. Donc les gens font la sauce comme ils veulent chez eux. Mais là, quand on est face aux Africains, le problème, c'est que les Africains qui sont venus avaient une autre idéologie, avaient une autre vision du monde, étaient porteurs d'une autre civilisation. Ce n'était pas un vacuum. C'est-à-dire que les gens qui sont venus, les gens comme les Makandales, par exemple, en Haïti, Makandales, ça veut tout dire son nom, pour qui peut le comprendre. Bon, tous ces gens-là sont en train de porter une autre civilisation. Tous les gens des Quilombo, là, pour peut-être des gens qui sont en dehors, ils ne reconnaissent pas, ils se disent, bon, ils sont dans l'esclavage, ils veulent se libérer. Non, non, non. Il faut aller regarder en détail ce que ces gens préconisent. Et là, vous allez rattacher ça à d'autres choses qui viennent de l'Afrique, c'est-à-dire à une vision alternative, avec le droit qui s'y rattache. Donc, il y a bel et bien chose des civilisations, mais pas là où on le pense. Et Napoléon, qui était bien plus éveillé qu'on ne le pense, enfin, beaucoup de gens le pensent très éveillé, mais d'autres pas, mais en fait, il l'était, dit à un moment donné aux Anglais, je ne sais pas où j'ai ramassé ça, quelque part, il leur envoie une lettre pour leur dire que, mais attention, dans l'affaire de Saint-Laurent, ce qui se passe, c'est pas, l'enjeu, ce n'est pas que la France a une colonie prospère. Non, c'est autre chose qui est en train de se jouer. Il y a une confrontation beaucoup plus profonde et c'est l'avenir de la civilisation. Et quand il dit la civilisation, il faut bien le comprendre. C'est un monsieur qui est allé en Égypte, etc. Donc, il ne faut pas simplifier ce qu'il dit. Il y a un autre enjeu là, qui est en train de se dérouler. C'est une autre histoire qui est en train de s'écrire là. Et il dit aux Anglais, on est rivaux, mais là, pardon, il faut venir avec moi, parce que là, c'est plus profond ce qui est en train de se passer.
Voilà. Est-ce que d'autres prises de parole sont demandées avant que nous levions la séance? D'autres, ou monsieur?
Une petite question. Est-ce qu'on a quantifié, c'est intéressant quand même, il y a quelque chose qui émerge maintenant, on sait qu'on a indemnisé les colons, notamment est-ce qu'on a quantifié de manière presque comptable, puisqu'en fait par les archives notariales on va pouvoir retrouver tout, est-ce qu'il y a déjà des écrits là-dessus qui rassemblent un peu ces indemnités ou non?
Ah oui, c'est très précis, on sait exactement quelles sont les sommes qui ont été
pas 300 000 familles,
qui ont été versées et à qui. Ça a été précisément noté à la fois pour la Guadeloupe, pour la Martinique et pour la Réunion. Parce qu'une des questions importantes qui se posent, c'est la question de la Réunion. L'argument, si vous voulez, du législateur quand la loi d'indemnisation des propriétaires est votée, c'est que beaucoup, argument spécieux bien entendu, c'est que la perte des esclaves ruine les tout petits propriétaires d'esclaves. Et donc, on va avoir affaire dans ces colonies à un petit monde blanc ruiné et radicalisé qui va s'attaquer à la République. C'est ça l'argument. Donc, il faut absolument. Mais quand on regarde qui a touché les sommes, évidemment, l'essentiel des sommes est parti entre les mains de très gros propriétaires, ceux qui n'étaient pas initialement visés par le législateur. Et comme l'île de la Réunion, c'est une île avec beaucoup de petits propriétaires, on prenait l'exemple de l'île de la Réunion comme l'île où. Un mouvement révolutionnaire d'anciens propriétaires allait naître. C'était ça le. Mais oui, on a toutes les sommes, on a tout précisément.
Vous voulez une référence, un titre?
Oui, non. Ça implique une réflexion sur la vie qui est intéressante, c'est sûr. Mais
Et réflexion économique, parce qu'on rapportait. Alors, oui. Ça, c'est des mémoires que j'ai lues il y a quelques temps maintenant, je ne sais plus. Quelles sont les sommes précisément, mais rapportées en euros actuels, hein, l'ordre de grandeur, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Ce n'est pas du tout des petites sommes faites pour.
C'est une somme qui sort maintenant, qu'on avait connue, même si on est
tout en pays. J'avais franchi le problème. Non. Il y a plusieurs années, il y a un colloque qui s'est tenu en Martinique, organisé par un professeur d'économie de l'université anti-guyane, s'appelle Fred Célimène, qui a été publié, les actes ont été publiés, et donc la thématique consistait à essayer d'estimer globalement le coût général de l'esclavage pour la Martinique en particulier. Et là aussi, on atteignait des sommes astronomiques. Donc ça doit se trouver, je crois que c'est chez Cartala, les actes de ce
Fred
bloc-là.
Fred Cartala, voilà la réponse. D'autres interventions, questions, remarques, réactions? Non? Donc vous pouvez retrouver Papa Ndiaye et Jean-François Niort juste là, à l'entrée. Merci.